Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il n'y a pas de bonnes histoires sans un grand méchant et la F1 ne fait pas exception. Beaucoup voient en Fernando Alonso ce personnage aussi attachant qu'irritant, répétant les mauvaises actions comme une habitude, voire une seconde nature. Dans un printemps qui s'annonce florissant pour le taureau des Asturies sur le marché des transferts, la mission 33, voire la quête d'un troisième titre mondial, sont-ils des concepts dépassés, devenus de 20 mirages, retraite, transfuge ou stabilité? Que doit Fernando? On en parle aujourd'hui. Salut les amis, bienvenue dans le Mac des Pistonnets, le rendez-vous de ceux qui aiment vraiment la Formule 1. Et ceux qui aiment vraiment la Formule 1 aiment forcément Tic et Tac, Brice Germain, Hamza Rahmani. Salut les gars.
Les gens qui aiment la Formule 1 n'aiment pas Tic et Toc plutôt?
J'étais persuadé que t'allais dire aime forcément Fernando Alonso et j'allais regarder Brice.
Non, je voulais pas en faire trop quand même. L'idée n'est pas de perdre des viewers dans ce
Quel
cas.
Éloge
pour Fernando Alonso ou pour vous deux?
Non, pour Fernando.
Ah, d'habitude, c'est vous deux quand même. Je vous place au-dessus de Fernando Alonso dans mon cœur.
Bah, j'espère bien. Parce qu'il y en a un qui va disparaître.
Toujours qu'il y a des missiles qui partent sur des moments d'amour dans cette émission.
Mais c'est Hamza, ça. Hein.
C'est vrai, exactement.
Un mot sur Norris, peut-être.
Il dit tout bas ce que tout le monde pense tout haut. Non, c'est l'inverse. Non, n'importe quoi.
On a SMR, il parle tout bas.
Les gars, avant de commencer ce débat, parlons quand même d'un événement, parce que cette émission est marquée à jamais par le saut du circuit du Castellet. Impossible de ne pas commencer cette vidéo sans parler de l'un des plus gros rendez-vous quand même pour les passionnés de ce pays, le Grand Prix de France historique qui aura lieu du 19 au 21 avril du côté du Paul Ricard. Les gars, c'est un rendez-vous spécial aussi qui nous tient à cœur, nous les pistonnés, parce que on a eu l'occasion de commenter cette course il y a 2 ans sur les antennes d'Automoto à la chaîne. Et en plus de ça, Brice, tu y seras toi du côté du Grand Prix historique.
Ouais, ça va être régal. On va avoir plein de catégories différentes. Alors, des fois des très vieilles qui ne parlent pas forcément à certains, mais qui parle,
d'avant-guerre même, hein.
Qui parle à nos plus anciens, on va dire.
Comme Guillaume Nedelec.
Pauvre Guillaume. Guillaume, il voit une voiture des années 50, il va faire « Mais c'est pas la bonne.
» Oui, ça c'est
51, c'est la version B. C'est très fort là-dessus. Non, mais en fait, vous pouvez voir en fait, l'histoire de la Formule 1 déroulée sur un week-end, mais également des F2, des F3. C'est des passionnés qui entretiennent ça, des assos, des entreprises qui mettent à disposition après ces monoplaces pour du spectacle avec des pilotes dedans qui viennent faire un peu le show et aussi un peu la course, hein, parce qu'il y en a pour qui c'est très sérieux, hein, de venir rouler au GP de France historique, mais pour ceux qui sont un peu de notre génération, il y a quand même une F2008 qui va être là. La voiture de Felipe Massa et Kimi Raikkonen lors de la lutte avec Lewis Hamilton, je peux inclure Aki Kovalainen parce que bon, ça c'est quand même une monoplace de légende. Du V10, du V8, peut-être même du V12.
Ah oui, il y a du V12 avec la Ferrari, celle de René Arnoux.
Oui, je suis bête.
Je sais plus.
Qui va la piloter d'ailleurs.
Exactement, il pilotera sa.
Et puis il y aura Alain Prost, il y aura Gerhard Berger, il y aura Jean Alesi, il y aura Franck Montani. Et puis c'est un week-end dans le sud fin avril, c'est pépère, c'est relax, donc venez, la billetterie est encore ouverte, et puis moi j'y serai, mais beaucoup...
C'est une autre bonne raison d'y aller, hein.
Ouais, franchement, voilà.
La principale raison d'y aller.
Là, il est faux cul quand il dit ça.
En tout cas, moi je quitte Paname pour aller là-bas parce que ça va vraiment être un moment génial, que ce soit entre potes ou en famille, enfin vraiment, c'est du pur kiff, donc venez parce qu'on va se régaler. Et puis voilà.
52 000 spectateurs la saison dernière, c'est quand même assez incroyable pour la France qui n'a plus ni de Grand Prix Explorer ni de Grand Prix de France de Formule 1, notamment
France RAL, Grand Prix d'Abu Dhabi.
Événement organisé, il faut le rappeler, par HVM Racing en partenariat avec la Fédération Française des Sports Automobiles et le circuit du Paul Ricard. T'as cité les grands noms qui seront là, Hamza. Moi je voulais te ramener à la première fois qu'on est allé ensemble au Grand Prix de France de Formule 1 où les historiques ont roulé. c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance de voir rouler une voiture équipée d'un V10 voire d'un V12. Rappelle-nous, toi, ton expérience quand tu étais au Grand Prix de France et que tu avais entendu justement cette Toro Rosso avec le V10.
Écoute, on marchait tranquillement, on regardait, on flânait, et à un moment, on entend un bruit. Ok, bah, on court, on remonte, on voit ce qui se passe. Effectivement, une Toro Rosso, donc c'est toujours un bruit, une émotion particulière. C'est vrai qu'on a pris l'habitude d'avoir des tondeuses à gazon aujourd'hui en Formule 1, mais avant la F1, c'était quelque chose, hein, en termes d'émotions procurées, engendrées par le bruit. Alors, encore une fois, rappelez-vous, Lewis Hamilton à Abu Dhabi, en Italie, t'as Fernando Alonso avec la Renault championne du monde qui roule. Il s'arrête. Oh, wow, man.
Voilà, avec les yeux d'enfant.
Oui, mais ça, c'est Lewis Hamilton. On le sait, showman. Toi, c'était Hamza Rahmani. T'es pas vraiment le gars showman par excellence. Tu vois.
Et il était un peu plus ému que Lewis Hamilton ce jour-là. Ouais, dit, moi, je m'en rappelle.
D'un point de vue extérieur, quand tu connais Hamza et le flegme qu'il a, il n'avait jamais vu ou entendu de V8, V10 avant, puisque le Grand Prix de France 2021, c'était son premier, il me semble, non ? Non, c'était Essai Hiverno, la première fois que tu étais allé. Et on l'a vu comme un gamin.
Mmh, exactement.
Donc, si vous voulez vous-même revoir cette...
À deux doigts de dire que je suis un robot... Sans cœur.
Non, c'est faux. C'est
non,
faux.
Mais j'attends de te voir pleurer.
Malheureusement, il n'y aura pas le. Enfin, tous les pilotes que t'as cités, il n'y aura pas le surcoté Oscar Piastri. Mais, on aura quand même un beau plateau avec
Qui a dit ça ?
Des coups de volant quand même que l'on pourra, j'espère, reconnaître. J'espère juste qu'on aura quand même des pilotes qui essaieront quand même de pousser la machine, de. Voilà.
Qui a dit qu'Oscar Piastri était surcoté?
J'attends beaucoup de monde au tournant.
Des gens qui ne regardent pas assez les pistonnés.
Dites-leur
de regarder les pistonnés.
Non, mais tu t'allumes des mèches.
J'allume des mèches.
Les gars,
balance.
Si jamais on ne vous a pas convaincu, déjà, on va vous. Le petit pêle-mêle, qu'est-ce que vous pouvez voir au Grand Prix de France historique? Regardez les petites photos qu'on vous a gardées. Tu l'as dit, Gerhard Berger va monter dans la McLaren, championne du monde, le troisième titre de Ayrton Senna, la MP4-6 à moteur Honda. Gerhard Berger sera dedans. Jackie X va retrouver sa Ferrari 312 Spaghetti. Jean Alesi va retrouver aussi également sa Ferrari. Ça, c'est la Ferrari de René Arnoux qu'il partageait avec le regretté Patrick Tambay. Voilà des morceaux, des pans d'histoire, en tout cas, qu'on pourra retrouver. Et il y aura également Alain Prost dans la première McLaren qu'il a pilotée, celle qui lui avait rapporté des points lors de son premier Grand Prix, la McLaren M29 qu'il pilotait notamment en 1980. C'est Richard Mille qu'on a eu l'occasion de rencontrer avec Polo d'ailleurs au Qatar, qui est propriétaire de cette voiture et la remet bien sûr en course. Si jamais on vous a pas convaincu avec ça, bah bande annonce tout de suite pour regarder ce qui vous attend. Le Grand Prix de France historique et la billetterie toujours ouverte, je vous le rappelle, le lien est en description de cette vidéo, grandprixdefrancehistorique.com pour accéder à cette billetterie et bien faire partie des grands passionnés, des plus de 50 000 passionnés qui seront présents ce week-end. On a eu des nouvelles les gars d'ailleurs, en parlant de ça, du Grand Prix de France de Formule 1. Stefano Domenicali était interrogé par son ami Jean Alesi ce week-end sur Canal+. Regardez, on a exhumé cette petite citation qui a été diffusée dans l'émission La Grille. Dans un mariage, il faut toujours au minimum que deux personnes soient d'accord. Pour nous, la France est un pays très important avec l'histoire de la passion de la Formule 1. On a eu une course incroyable au circuit du Paul Ricard il y a 2 ans, mais on doit trouver la solution juste. Il faut trouver de l'intérêt du côté français, que votre pays comprenne qu'il faut un investissement important qui doit être organisé de manière centrale au niveau du gouvernement. Quand on travaille avec d'autres pays, on a les premiers ministres, des rois impliqués dans l'organisation du Grand Prix de Formule 1. Ils comprennent que nous leur permettons d'avoir une visibilité mondiale avec des opportunités de business et d'accueil pour de nouveaux visiteurs. Penalty à peine senti vis-à-vis de notre président Emmanuel Macron et sans doute de la ministre des Sports aussi également. Ça vous laisse penser quoi cette déclaration de Stefano Domenicali. On n'a pas pu s'avancer depuis quelques mois, ça veut
c'est
dire.
C'est qu'il a un ego démesuré et que.
Non, mais c'est la vérité. Je le pense. C'est que, en fait, il a juste envie de faire des dîners, d'être reçu. En fait, c'est Gianni Infantino.
Ouais.
Voilà,
c'est vrai. Ça, c'est vrai.
J'ai envie d'être important, et pour me sentir important, il faut que je vois Paul Kagame, il faut que je vois un tel, il faut que je vois le président, il faut que je vois le premier ministre, il faut que je me sente influent dans, peut-être pas dans la vie politique, je vais pas aller jusque là, mais j'ai besoin de voir des personnalités politiques pour vous donner de l'intérêt. Sinon, rien.
Genre, je discute pas avec Estrosi, mais avec Macron directement.
Non, mais en fait, il est juste en train d'expliquer que ça sert à rien de créer des groupements régionaux à faible investissement. C'est pas 15 millions d'euros qui régleront le problème.
Ouais.
Il faut un investissement à minima d'une boîte à moitié détenue par l'État, enfin un Total ou un truc comme ça, et une compagnie nationale ou du gouvernement, mais, et que ça sert à rien en tout cas d'arriver avec des projets minimes, parce que la F1, des projets à minima médium, elle en a plein, et que du coup, là il nous dit juste, ne vous découragez, ne perdez pas de temps avec des projets comme vous avez fait de gros points d'intérêt public, ça n'ira nulle part. Par contre, si vous arrivez et que disent la France met 100 millions sur la table, là il n'y a aucun problème.
Combien paye Imola?
Ah.
Ça, je sais pas, j'ai pas le chiffre.
Mais Domenicali discute avec lui-même pour Imola. C'est pas
grave. Allô, Stefano, ouais, ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Ah bon, on gère ça à combien? Bah, tu vois, bah, c'est pas mal. C'est... Okay.
Mais je pense qu'il paye 20 millions, un truc comme ça. C'est Made in Italy, le sponsor de l'Emilia Romagne. Made in Italy, où Stefano Domenicali
a quelques billes.
Et dedans.
D'accord. Ceci explique.
C'est vraiment étonnant.
Non, mais ce qu'on comprend, les gars.
Il est né à Imola, je tiens à le dire.
Pour lire entre les lignes, quand même, ce que dit Stefano Domenicali, c'est que tant que l'État ne s'engagera pas et ne sera pas garant de cet événement, il n'y aura rien.
C'est même un problème d'État.
Et moi, j'ai quand même l'impression que l'État ne bougera pas.
Il n'y a que l'État qui peut mettre 50 millions. Ou à minima une compagnie d'État. Donc c'est pour ça. C'est pas tant il veut les États, c'est qu'il veut un investissement même massif. Et qu'aujourd'hui, des investissements comme celui de Monaco à 17 millions d'euros, il n'en veut plus.
Exactement. Voilà les amis, on referme donc cette page un petit peu franco-française. Pour commencer, parlons franco-français. L'excellent Gaël Engleviel qui a écrit la nouvelle biographie de Max Verstappen. C'est sorti aux éditions City et on vous proposera de la gagner dans le laps de temps qui nous attend d'ici le Grand Prix de Chine. Donc ça sera sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a on fait partie des remerciements les gars, c'est quand même
partie des remerciements.
Ouais, mais regarde, c'est tous mes amis journalistes comme Loïc Chalamas, Paul, Emmanuel Moine, Anthony Drevet, les créateurs de contenu, donc vous êtes dedans, sur différentes plateformes en ligne qui œuvrent chaque jour pour dérouler l'histoire de notre discipline favorite. Si là, ça ne parle pas de Hamza Rahmani et Brice Germain, je ne comprends plus rien.
Non, mais moi, je vais aller dans la Drôme et je vais aller chercher Gaël.
Voilà.
Je le dis direct.
Eh ben, écoute, bravo Gaël, en tout cas, pour cet excellent bouquin. On aura peut-être l'occasion, justement, de l'inviter pour le 4e titre de Max Verstappen. Ce sera l'occasion, bien évidemment. Les gars, on a... Dernière page de pub va vous passer. C'est tout simplement notre commanditaire, Winamax, qui nous soutient bien sûr dans la suite des pérégrinations des pistonnés. Et si vous souhaitez parier, notre producteur Thomas Dufond vous explique tout.
Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100€ et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre.
Voilà les amis, vous avez toutes les informations. N'oubliez jamais une parole assez importante à vous donner. Le pari est réservé bien sûr aux personnes qui sont majeures. On ne parie pas avec l'argent dont on ne dispose pas et on parie pour le plaisir et pas forcément pour chercher le bouton de l'ascenseur social qui, on vous le rappelle chaque semaine dans les pistonnés, est bloqué depuis de trop nombreuses années dans ce pays. Sur cette parenthèse politique, parlons d'un politicien qui devrait en faire un petit peu plus. C'est monsieur Fernando Alonso, c'est l'heure du débat. Que doit faire Fernando Alonso dans cette silly season qui s'annonce complètement folle depuis que Lewis Hamilton a annoncé son départ du côté de chez Ferrari? Fernando Alonso qui pourrait être une pièce centrale de l'échiquier des transferts. On regarde plutôt avec ce tableau, il a 4 possibilités. Fernando Alonso qui s'offre bien sûr aujourd'hui à lui, prolonger avec Aston Martin, devenir le numéro 2 de Max Verstappen, accompagner George Russell au sein de chez Mercedes ou tout simplement partir à la retraite. Oui, la retraite est une possibilité, comme il l'a expliqué en conférence de presse lors du Grand Prix du Bahreïn. Voilà ce qu'il nous disait. Tout d'abord, je dois décider si je veux continuer à courir. C'est la première chose que je dois décider dans quelques semaines ou quelques courses. Le calendrier est très chargé et en 2026, la réglementation va changer. On verra si cela me tente. Autre élément, réponse de Mike Krack qui disait « Je pense que pour tout athlète, pour tout sportif, ce sont des réflexions qui démarrent à partir d'un certain moment dans une carrière. S'il décide de continuer, on va tout faire pour le garder. » Volonté d'Aston Martin de garder Fernando Alonso. Et puis le décryptage d'un homme qui n'est pas forcément son meilleur ami, mais d'un homme avec qui il lui arrive d'échanger, c'est Franck Montagny qui était son pilote essayeur du côté de chez Renault.
Ah, je pensais qu'on allait écouter Brice Germain.
Mais juste après, t'as bien raison. Franck Montagny qui disait dans l'émission En Pôle sur Canal Plus début mars, je pense qu'il y a un peu de lassitude du combat. Il y a un peu ça dans sa tête, très sincèrement. Si une belle équipe vient le voir avec une vraie proposition, avec les fleurs et le chocolat, il va y aller. Sans problème. Sans ça, il n'y va pas. Vous pourrez même lui mettre 40 millions. Il n'y va pas. Très sincèrement, il a besoin d'être vraiment aimé, presque d'être adulé. Qu'on ait besoin de lui, il est vraiment à une période charnière de sa vie. Soit il continue ce sport de haut niveau à 200%, mais on ne peut pas allier ça à une vie de famille. Peut-être qu'à 42 ans, il a aussi envie de créer cette vie de famille, calmer un peu le jeu et se consacrer à d'autres choses, d'autres disciplines de sport mécanique qui demandent justement moins de temps. La retraite de Fernando Alonso, est-ce qu'on y croit ici sur ce plateau ?
Non.
Et toi, Hamza ?
Je ne l'exclus pas.
Merci beaucoup, bonne journée et à très très vite.
Je ne l'exclus pas, mais... J'aurais tendance à ne pas y croire, mais.
D'accord.
Mais. Voilà.
Allez-y, je vous laisse développer, les gars, c'est intéressant.
Oui,
mais pas
là,
forcément
là,
d'accord.
Là, je voulais vraiment un oui-non.
Ok, patron.
Pardon, effectivement. Je suis rédac chef. Non, moi, j'y crois pas pour la simple et bonne raison que. Je pense que Fernando Alonso est frustré de son palmarès statistique. Que le projet Trenta Idris en est la preuve, et qu'à mon avis, il veut regagner des courses. Et que s'il est encore là, c'est pour regagner des courses, pas pour se battre, pas uniquement pour le sport automobile, mais pour avoir un projet qui lui permette de gagner des courses. Alpine était un projet qui promettait de gagner des courses. Il en est parti, conscient que ce n'était pas le cas. Il a rejoint Aston Martin, dont le projet, pour moi, à terme, peut vraiment emmener à gagner des courses. Là maintenant, et dans une situation où en 2023, on a vu Max Verstappen exploser l'ensemble de la concurrence, et dont on dit actuellement qu'il est l'extraterrestre de la Formule 1. Sauf que l'extraterrestre de la Formule 1 a une voiture extraterrestre. Aujourd'hui, il y a peut-être d'autres extraterrestres qui n'ont pas une voiture extraterrestre. Et je pense que Fernando Alonso, s'il est dans un projet qui, à court et moyen terme, peut gagner, il restera. Et si on le sollicite, notamment par rapport à ce qu'il a prouvé l'année dernière sur l'Aston Martin, sur un projet qui peut gagner, il ira. Maintenant, si Aston ne le renouvellera pas, effectivement, peut-être qu'il ne fera pas d'effort pour trouver un baquet. Si Mercedes lui propose, je ne pense pas qu'il y va à l'heure actuelle au vu de la pente de Mercedes. Par contre, pour moi, du coup, il y a deux solutions réelles pour ça. C'est Aston Martin au vu de la progression et ce baquet court terme, Red Bull.
Ça, on va y revenir, bien sûr, juste après avoir évoqué la possible retraite de Fernando Alonso dès cette année 2024. Hamza, tu disais, j'aurais tendance à pouvoir y croire, si j'ai bien compris. Quelles sont les raisons, justement, qui te poussent à cela ?
De sa retraite, si tu
veux. Oui, tout à fait. Sur la question de la retraite.
Je rejoins Franck Montagny. Je ne sais pas si aujourd'hui, il a non pas la patience, mais le temps de pouvoir patienter. On parle d'un pilote qui aura 43 ans cet été. Mmh. Alors, vous savez ce que je pense de l'âge.
Oui, on est d'accord avec toi.
Louis Chiron a 55 ans.
Et encore plus avec Fernando Alonso.
La comparaison catate.
Mais, oui, Fangio a été champion du monde à 46 ans. Oui, bon, c'est un autre temps.
On s'en rapproche, hein. Avec les mêmes places.
Mais mine de rien, en fait, on va prendre des exemples concrets pour expliquer. S'il reste, par exemple, c'est chez Aston, si Aston veut de lui. Là, le fameux bombasso de lundi, c'est que selon Motorsport, il y a des sources en interne chez. Il y a un petit clan chez Aston Martin qui pousse pour que Carlos Sainz arrive chez Aston, mais pas à la place de Stroll, seulement à la place d'Alonso.
Ah mince.
Voilà, pour construire le projet autour
d'accord.
de. Voilà. ça vaut ce que ça vaut. Mm-hmm. Encore une fois, ça fait partie du cycle des rumeurs. Si demain tu restes chez Aston Martin, effectivement que la logique voudrait que tu ne puisses pas te battre pour le titre avant, minimum avant 2026. Nouveau règlement, on rappelle qu'à ce moment-là, Aston Martin aura Honda comme motoriste.
Ouais. Et que le meilleur motoriste actuel.
Le seul motoriste qui aura... Enfin, pardon.
La seule écurie Honda équipée par Honda.
Ouais, sera la seule écurie équipée par Honda. Donc, ça change quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec ton moteur Mercedes, tu es obligé d'avoir le moteur Mercedes, puis d'imbriquer la voiture autour, d'adapter à la conception de Mercedes, ce qui changera fondamentalement la manière de construire ta voiture. Donc peut-être aussi qu'aujourd'hui, Aston Martin est limité par cela. Ou pas, ça on ne le sait pas. Mais si demain tu restes chez Aston Martin, je ne le vois pas rester uniquement sur un cycle 2025 et puis rideau. C'est minimum 2026. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs options. La première, comme tu l'évoquais, je veux gagner en 2025. Là, il y a une seule écurie. On exclut évidemment Ferrari, parce que Hamilton est signé, Leclerc ne... Voilà.
Et signé.
Un prolongé aussi, ouais.
Oui, il faut, après, tu peux dire, bon, un contrat
se casse.
Voilà,
ouais.
comme tu le dis souvent. Donc, Ferrari, c'est pas possible. Red Bull, moi, je pars du principe que Max Verstappen restera. Si Alonso lui propose le challenge, il y va, à mon avis.
Sachant que si Verstappen part, il part chez Aston Martin, à mon avis. Mais...
Aussi, oui, oui. Mais enfin, le départ de Max, plus on avance, et moins j'y crois. Pareil, je sais que j'y croyais pas beaucoup il y a plusieurs semaines. Si demain. Tu lui offres la possibilité Red Bull, il y va. Parce que tu as la possibilité justement de gagner dès 2025 et de partir. Mais en fait, il n'y a pas d'autre baquet aujourd'hui en Formule 1 qui t'offre justement cette option en 2025. Donc, il faut se projeter sur 2026. Et 2026, là, tu as un champ un peu plus ouvert avec notamment Aston Martin. Mais je pense que dans cette optique 2026, il est dans aujourd'hui le meilleur projet pour espérer gagner à partir du moment où il est installé, à partir du moment où il y a un développement des infrastructures, à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, il y a Honda qui va motoriser cette écurie. Je vois soit Alonso rester chez Aston, soit prendre sa retraite. Et c'est pour ça pourquoi aujourd'hui je pense que déjà il ne maîtrise pas tout, même si Mike Crack lui le dit à l'envi que c'est Alonso qui déterminera si oui ou non il sera pilote en 2025. Mais après tout, on ne sait jamais. On a déjà vu des renversements de situation avec une écurie. Il y a une opportunité de marché et tu vas chercher un autre pilote. Mais je ne vois pas l'intérêt en fait, pour lui de quitter Aston Martin aujourd'hui.
Ok, bon, on va rentrer justement dans les différentes options qui s'offrent à Fernando Alonso. Il y a quand même un argument pour terminer cette histoire de retraite. Quand il est parti en 2018, oui, il avait la voiture, la McLaren ne fonctionnait pas comme il le souhaitait. Il y a cet argument de la vie privée. C'est vrai que, à la différence d'autres sports, quand on parle de Formule 1, qu'on prend les cas par exemple de Lewis Hamilton et de Fernando Alonso, c'est des mecs qui n'ont pas de gamins, en tout cas pas déclarés, pas officiellement. Non, mais je le dis parce qu'on sait jamais s'il y a un bon basso qui sort d'ici l'apparition de cette émission. C'est des mecs qui sont complètement dédiés, dévoués à leur sport. Jean-Luc Roy nous avait dit lors de son départ chez Aston Martin, on en avait parlé à Machine à Café à l'époque chez Webedia, il nous avait dit, mais ce mec-là, il ne peut rien faire d'autre que conduire une voiture. Fernando Alonso, son logiciel, sa vie est dédiée à ça. On peut comprendre un petit peu de lassitude. On peut se dire qu'il y a d'autres défis pour Fernando Alonso. On se rappelle de la triple couronne. Hein. Il n'a plus qu'à gagner les 500 miles d'Indianapolis pour devenir l'égal de Graham Hill, ce qui serait une lettre de noblesse, en tout cas au niveau du sport automobile. Dernière déclat concernant la possible retraite de Fernando Alonso. Il a dit quand même à Marca au mois de janvier dernier, preuve qu'il a quand même encore le feu sacré en lui. Il dit, je l'ai dit à nombreuses reprises, le jour où j'arrêterai la course, ce ne sera pas parce que je ne me sens pas motivé à piloter ou parce que je me sens lent, je serai le premier à admettre que mon heure est venue, mais je ne pense pas que ce moment viendra. Par contre, il se peut qu'avec le calendrier et le programme l'exigeant, que j'estime un jour que l'heure est venue, car il y a d'autres choses dans la vie. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais le plaisir à conduire ces voitures de 2026 va être important. Les garçons apparemment sont déjà passés dans les simulateurs, Max Verstappen s'en était plein notamment, et ces calendriers à 24 Grands Prix par saison, je comprends que ça puisse être un petit peu exigeant. La deuxième partie, les gars, justement, c'est la question à laquelle vous avez commencé à répondre. A-t-il intérêt à quitter Aston Martin si son souhait bien sûr était de rester en Formule 1. Regardez ce tweet et cette information qui a été lâchée par Formula Uno qui nous avait déjà annoncé l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Tweet de Off-Track, hein, il faut quand même saluer les copains de Off-Track. Fernando Alonso ne semble pas être intéressé par le second baquet Mercedes pour 2025. L'Espagnol croit plus en Aston Martin qu'en Mercedes et préférerait un renouvellement de contrat chez Aston. Cependant, il attend de voir comment évolue la situation chez Red Bull. Ça, c'était qu'une rumeur ce vendredi, et cette rumeur elle a été confirmée en conférence de presse après le Grand Prix du Japon, avec Fernando Alonso qui est interrogé par Sky Sports sur une éventuelle arrivée chez Mercedes, et sa réponse est très claire. C'est une très bonne question, mais Mercedes est derrière nous, donc cela ne semble pas si intéressant. Donc on peut fermer la porte de Mercedes ou Aston Martin, les gars. Le choix est fait pour vous. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il puisse rejoindre l'écurie de Toto Wolff.
Non, tout est possible. Encore une fois, on est sur un marché qui a été lancé par Hamilton, un marché qui peut vite exploser, même si aujourd'hui la question de la stabilité commence vraiment à se poser avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Max. Mais si demain, ce qui peut paraître fou, et Alpine a déjà montré qu'il ne faut pas commettre cette erreur, mais après tout, pourquoi pas? Si demain, Aston Martin décide d'écarter Fernando Alonso pour un pilote X et de garder Stroll à côté, déjà, il faudra m'expliquer le concept, mais ça, c'est un autre débat.
Facilement explicable.
Il y a une clause dans son contrat. Tu sais que tu connais la clause du contrat de Lance Stroll, c'est que si Aston Martin ne le remplace pas parce qu'il est considéré le meilleur pilote de la grille, donc le champion du monde, à partir de ce moment-là, Lance Stroll a un +1 automatique et double son salaire. Je te jure que c'est vrai. Ça vient de Formula One Business qui a sorti ça l'année dernière. Je te jure qu'il aurait cette clause-là dans son contrat.
Il double son salaire.
Il doublerait. C'est ce qu'il a fait entre 2023 et 2024. C'est ce qu'il a fait entre
chaque
2022
saison.
Et 2023. Tout à fait. En fait, il y a une clause qui dit si tu prends pas le champion du monde, dans ces cas-là, il est automatiquement prolongé. Donc à sa place, c'est-à-dire que tu peux prendre le champion du monde à côté. Il est automatiquement prolongé et il se trouve, peut-être une autre clause, entre 2022 et 2023, son salaire a doublé.
Donc là, potentiellement, dans 3 ans, c'est le pilote le mupé de l'histoire de la F1.
Et il est à 160 millions d'euros.
Je pense qu'ils vont le sortir quand même un jour.
Ok. Donc t'es en train de me dire qu'on peut avoir un Verstappen Alonso en 2025
chez Aston Martin?
Oui, s'il arrive à le convaincre. C'est la seule fenêtre contractuelle qui permet de sortir.
Comment on dit projet 33 en néerlandais?
On va parler un petit peu, mon ami.
Ok, bon, bah j'ignorais cette incroyable situation contractuelle. On a tendance à dire, pour se moquer, qu'il a un CDI, mais là, c'est
mieux qu'un CDI.
C'est un CDD renouvelable.
Waouh! Bref, du
coup. Ta vie sera toujours meilleure.
C'est ça qui est dit.
Yeah. Non, mais c'est
dingue. I'm right.
C'est plus que. Oui. Du coup, tu te retrouves dans la situation où si demain, pour une raison X ou Y, aussi folle que cela puisse paraître, Alonso est écarté par Aston Martin, si lui n'est pas prêt à quitter la Formule 1, après tout, on n'est pas à sa place, que Mercedes arrive et lui, alors qu'on voit que depuis 3 ans, manifestement, on ne comprend toujours pas quel est le problème chez Mercedes, qu'ils arrivent à chaque fin de saison à revenir à la... Mais pour lutter sur un championnat, il ne faut pas être bon sur 3 courses en fin de saison, il faut être bon sur 24 Grands Prix.
Seul Brésil.
Donc, si demain Mercedes arrive et lui propose un projet convaincant pour 2026, peut-être qu'il se laissera tenter. Moi, j'y crois pas, perso. Aujourd'hui, à date, au mois de début avril, j'y crois pas. Après, oui, tout est possible.
Qu'est-ce que ça dit, les gars, quand même, que Fernando Alonso puisse refuser Mercedes pour en vue de prolonger, pardon, avec Aston Martin? Qu'est-ce que ça dit du projet sportif Aston Martin, quand même?
Non, mais ça dit surtout que le baquet Mercedes est de moins en moins attractif pour les pilotes. Au vu de la communication de Toto Wolff, je pense que il n'est pas si sollicité que ça pour ce baquet-là. Alors qu'on disait que c'était le baquet le plus prisé, mais au final, tu vois la W15, que Mercedes, ça fait 3 ans qu'ils mettent moins de points au même stade des saisons. Là, aujourd'hui, ça, pour moi, ça veut juste dire par rapport à Aston Martin que la pente est ascendante d'un côté et descendante de l'autre. Que depuis cette AMR22 à Barcelone en 2020, AMR23B pardon, à Barcelone en 2023, AMR22B à Barcelone 2022, la pente est ascendante. Que depuis mai 2022, aucune update apportée par Aston Martin n'a été mauvaise, sauf une. Entre l'été et l'automne 2023, on a eu un petit déclin et où Mike Crack a expliqué, on s'est trompé, on a compris où, et vous allez voir, ça va aller mieux en fin de saison. Quand Mike Crack il parle, c'est corrélé avec la piste. Ce qui n'est pas le cas d'Alpine, où c'est de l'inverse, et ce qui n'est pas le cas des ordinateurs avec Mercedes.
C'était d'ailleurs le souci de Aston Martin, c'était le fameux souci dont ils parlaient en fin de saison dernière, qui avait en fait dans leur dans leur outil, puisqu'ils étaient en plein déménagement avec cette nouvelle usine du côté de Silverstone, il expliquait que justement les précédents outils n'apportaient pas de corrélation entre ce qu'on voyait sur les ordinateurs et ce qui se passait sur la piste, et ils ont réussi à corriger ça.
Ils sont arrivés avec un premier package d'update. Leur problème principal était le rythme de course et la dégradation pneumatique. Ils l'ont réglé à peu près, puisque Fernando Alonso n'a pas perdu de place contrairement au dernier Grand Prix. Je pense très sincèrement, au vu de l'investissement qu'il y a, des nouveaux outils qui seront aptes à 100% en 2026, notamment c'est la soufflerie qui prendra le plus de temps, qu'aujourd'hui c'est le projet le plus prometteur pour la nouvelle réglementation. Or, et on en parlait, Ferrari est peut-être aussi prometteur que Red Bull à la rigueur, parce que Adrian Newey, on essaie de le débarquer. Que Red Bull n'aura plus Honda.
Mais Red Bull, oui, voilà, c'est ça. Red Bull, le changement de moteur, et c'est un moteur qui va découvrir la Formule 1.
Oui, et on rappelle, les moteurs qu'on découvre à la Formule 1, ils s'appellent Honda en 2014. Mm-hmm. 2015.
C'est pour ça, pourquoi, pour revenir très rapidement sur le Alonso Red Bull, en fait, ce serait pour un one-shot d'une saison.
Tout à fait.
Parce que 2026, tu sais pas ce que c'est. Peut-être que 2026, Red Bull est 7e au constructeur.
Mais c'est justement, en fait, pour moi, la question de la réponse où est-ce que Alonso va aller, c'est il en a marre, il arrête. Il a envie d'un projet court terme pour regagner Red Bull. Il a envie d'un projet long terme pour finir à 50 piges, Aston. Mais en fait, t'as l'éventail. Parce que Red Bull te garantit du succès tout de suite, en 2025, normalement. À moins qu'il foire complètement le dessin, a priori, ça te garantit du succès. Mais ça ne te garantit rien pour 2026. Et c'est d'ailleurs pourquoi un transfert de Verstappen était crédible. Parce qu'au final, peut-être que la fin de domination arrivera en 2026.
On peut le dire, les gars. On a eu des informations au sein de l'écurie Red Bull. Il y a beaucoup de gens dans cette écurie qui ont beaucoup de doutes concernant l'intégration du moteur Ford dans cette voiture.
Ah bah oui, bien sûr. C'est en fait, faut tout refaire à l'arrière.
Il y a un autre point qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que dès 2025, sauf si les délais ont changé, mais je n'ai pas vu ça passer en tout cas, la monoplace Aston Martin 2025 sera la première construite avec la nouvelle soufflerie.
C'est vrai.
Elle ne sera pas opérationnelle à 100%
mais 2025. Il me semble qu'elle sera opérationnelle sur cette année 2024. Dites-nous si on se trompe ou si les délais ont changé.
J'ai pas lu ça.
Mais la saison dernière, j'avais souvenir justement d'une planification soufflerie opérationnelle milieu 2024. Ce qui fait que la voiture de 2025 serait la première 100% construite avec justement cette nouvelle usine. Après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver en 2025. Mais c'est vrai que dans l'optique vision Aston Martin, moi, je suis plutôt d'avis d'attendre 2026 pour jouer le titre. Encore une fois, je pense qu'Alonso, aujourd'hui, n'a pas meilleur projet à disposition que celui d'Aston Martin.
Long terme.
Court terme, c'est Red Bull. Mais
si on se pose la question, Amit, Fernando Alonso, tu l'as dit, il va avoir 43 ans cet
été. En fait, est-ce qu'il est valable pour Alonso? Il est valable pour tous les pilotes.
Oui,
en fait,
bien sûr, complètement. Mais
il
y a quand même...
Le
projet...
Lui, c'est le dernier move, en
projet. Ouais, mais sur le projet Aston, par exemple, si demain tu me dis... Si Max Verstappen, demain, tu me dis, il quitte Red Bull et rejoint Aston Martin, ça veut dire, à mes yeux, qu'il aura l'ambition de devenir un pilote dominant sur la nouvelle ère, qu'on lui a donné des garanties sur la nouvelle ère, et qu'Aston Martin, du coup, manifestement, s'affirme comme un candidat à partir de 2026.
Oui, mais Max, il peut se planter.
Ah, mais bien sûr que...
Alonso peut plus se planter.
Ce que je te disais, c'est une question plus que de timing, c'est il n'a pas le temps de...
Mais justement, c'est là où elle est intéressante.
Mais il a passé sa carrière à se planter.
Tu joues pas le court terme sur...
C'est la question. Red Bull.
Est-ce qu'on t'offre quelque chose? Est-ce que Red Bull t'offre quelque chose?
Il y a des appels du pied de Christian Horner quand même, quelques-uns. Après, il y a une question aussi de légitimité par rapport à Pérez, parce que Pérez, aujourd'hui, on n'a aucune certitude qu'il soit viré.
Mais attends, mais les appels du pied, là aussi, Christian Horner, est-ce qu'on ne parle pas d'appels du pied suite au climat nauséabond chez Red Bull en début de saison?
Ils ont qui à mettre à côté de Max Verstappen à part Pérez? Si tu enlèves Pérez de l'équation,
ce
qui déjà est un gros si. Encore une fois, on en revient à ce que je disais il y a deux semaines.
On verra dans 5-6 Grands Prix.
T'as raison, mais si les écarts se resserrent, il va falloir quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'adapter facilement, rapidement aussi également à cette Red Bull. Le pari du court terme, tu l'as très bien dit, l'objectif pour Fernando Alonso, c'est quoi? C'est aller essayer de tendre à ce troisième titre qui est quand même aujourd'hui un lointain mirage. Et sinon... recommencer à gagner et aller chercher cette 33e. Est-ce que une saison dans une voiture dominante en fin d'air, même si on imagine au vu de la physionomie que vous avez expliqué dans l'excellent débrief de lundi, qu'on va avoir une convergence des performances et sans doute des écarts un petit peu plus resserrés, c'est une occasion unique dans la carrière de Fernando Alonso?
Mais attends, mais parce que là, dans le plan de Brice, Alonso rejoint Verstappen.
Oui, c'est ça.
A-t-il intérêt à rejoindre Verstappen?
Ça fait partie des questions que je pense poser. Ouais.
Franchement, oui. Red Bull a intérêt et Alonso a intérêt. Alonso a un déficit d'image et Alonso a un déficit de stats. Je pense que c'est
Alonso a un déficit d'image.
Un déficit d'image. Oui, parce qu'en fait, ses stats ne parlent pas.
Ah, ok. Oui, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas gagné en F1.
Complètement.
C'est vrai qu'un fan de F1 qui a 15 ans, il a
jamais vu gagner.
Et pour lui, d'un pilote d'un crack. Mais attends,
il n'a qu'un titre de plus que Jenson Button. Il ne parle pas de Kimi Räikkönen.
On les a les stats, si vous les affichez dans le barco, les gars, d'ailleurs.
Oui, voilà, tu vois. Enfin, aujourd'hui, Nico Rosberg a combien ? 5 victoires, 6 victoires de moins que Alonso ?
Ouais, 23 pour Rosberg, 32 pour Alonso.
Attends, on est bien d'accord sur un truc, c'est que les stats de Fernando Alonso, après 382 courses, devraient être 70 victoires,
complètement, ouais.
70 pole positions et 170 podiums.
Avec des bons choix de carrière.
Oui, mais au final, c'est quand même... Si tu prends après l'ère Prost Senna, pour moi, il y en a deux qui sont à son niveau ou au-dessus, c'est Hamilton Verstappen.
Pas plus. Clairement, ouais.
Ah, Schumacher
aussi.
Ouais,
je me dis, attends, t'as peut-être oublié.
J'ai oublié.
Tu le mets au-dessus de Hakkinen?
Oui.
Franchement.
Non, mais oui.
Il a répondu à la question à ta place.
Et pourtant,
je voulais un avis objectif.
Non, mais quand j'étais gamin, j'étais fan d'Hakkinen.
Bien sûr. C'est les gens de ce sport.
Ouais. Hakkinen m'a moins fait faire des oh, tu vois. Tu vois. C'est ce que je veux dire.
Des Gaëtan Vigneron qui ressortent.
Le malin le renard. Fernand. Non, attends, c'est vrai.
Est-ce que Max Verstappen veut de Fernando Alonso à côté de lui? C'est quand même quelque chose d'important.
Il l'a traité de vieux schnock.
Justement, on a exhumé cette citation qui date de ce week-end où Max Verstappen dit... Oh. Déjà, je me fiche de savoir qui est assis à côté de moi. Je l'ai également dit à l'équipe. Moi, je peux battre tout le monde. Mais puisque vous me posez la question, je vais quand même vous répondre. Je trouverais étrange d'embaucher un pilote de 42 ans. Red Bull a toujours eu pour la tradition de former soi-même de jeunes pilotes. Elle s'est déjà écartée de cette tendance avec la signature de Sergio Pérez, car il n'y avait personne dans le pool à l'époque. Mais ça irait plus loin encore avec un pilote de 42 ans. Je peux bien m'entendre avec Fernando, c'est pas le problème. Mais je regarde aussi l'avenir de l'équipe. Est-ce que ce que dit Max Verstappen, c'est pas quelque part ce que peut penser Helmut Marko et ce que peut penser Christian Horner?
Oui, non, mais la différence, c'est que avec Max Verstappen à côté, c'est juste envoyer des agneaux au milieu des loups. C'est-à-dire que ouais, on a le pool de jeunes pilotes, c'est lui qui l'a détruit.
C'est Max. Oui, hein. c'est vrai. Avec bien aidé par la politique de Red Bull.
Il y avait Gasly et Albon, mais au final, t'as ramené ces gamins-là trop tôt chez Red Bull. Ils ont pris une saucée, ils ont fait 10 grands prix, Albon 20, et terminé. Donc le fait de devoir recruter Sergio Pérez parce que tu as détruit deux pilotes, c'est la faute du système en place. Donc, je pense que Red Bull voit plus loin que ça et se dit que justement, le pilote qui a tenu le plus longtemps à côté de Max Verstappen depuis Daniel Ricciardo, c'est Sergio Pérez. Et qu'aujourd'hui, l'expérience et l'adaptation valent plus que le talent pur à côté de Max Verstappen. Parce que le talent pur, en tous les cas, il va se confronter au réglage de Max Verstappen. Donc l'agilité, le côté j'ai conduit 3-4 monoplaces, c'est pour moi un argument favorable pour prendre le deuxième baquet Red Bull à l'heure actuelle, qui a besoin de mettre des points quand on optimise tout parfaitement de l'autre côté pour Max Verstappen. Donc, aller foutre un Tsunoda, un Lawson, un Hadjar, un Ricciardo, même Ricciardo. Ricciardo, à l'heure actuelle, il est loin de ce baquet. Ces quatre-là, en fait, ils feront moins bien que Pérez.
C'est vrai.
Je pense. Parce que c'est... Il faut quelqu'un qui, au moment où il arrive, soit posé et assis sur la Formule 1. Et pour le coup, je pense que Fernando Alonso est le meilleur choix.
Autre éventualité 2025, on ne l'a pas trop...
Retour Chapin, non.
Non.
Il signe 30 juillet à Paris. Ferrari peut jouer le titre dès 2025.
Oui, bah, clairement. Ouais.
Et à ce moment-là, Ferrari, tu as deux pilotes qui peuvent jouer le titre.
Oui, bah, est-ce que c'est pas le cas chez Red Bull? Enfin, j'aime pas dire ça vu le début de saison de Pérez, mais...
Non, mais...
Enfin, il les a prouvé à maintes reprises qu'il ne jouait pas le titre.
Oui, voilà, mais... ça, tu peux anticiper ce qui peut se passer en deuxième partie de saison.
Valtteri Bottas jouait plus le titre à certaines époques.
Et au-delà de ça, dans l'optique, encore une fois, je reviens à l'exemple Bottas 2021, toi, t'as Max d'un côté, et imaginons Ferrari, il y a un seul pilote qui est choisi pour jouer le titre. Il faut aussi le deuxième pilote capable de prendre des points à la concurrence, et donc au pilote Ferrari qui sera choisi. Est-ce que Pérez, si demain Leclerc ou Hamilton encore une fois, on est vraiment dans un énorme si. Mais on la voiture pour gagner, gagne, joue le titre. Est-ce que Pérez demain est capable de leur prendre des points, de leur shipper une deuxième place, de leur shipper...
La seule fois où on a eu le cas, c'est 2021, et ça n'a pas été le cas. Mm-hmm. Mais bon, c'est la première année de Pérez chez Red Bull, et Pérez a fait un travail qui était supérieur à celui de Gasly.
C'était la 17e saison de Bottas chez Mercedes, et on a vu que ça pouvait coûter un titre.
Les chiffres, s'il te plaît, Hamza.
Je l'ai mis en tête.
7e.
La dernière question qu'on peut se poser, est-ce que Fernando Alonso prend un risque en rejoignant la Max Verstappen team et Red Bull en vue de la saison prochaine? Est-ce que si jamais il se faisait poutrer par Max Verstappen, ça viendrait écorner un petit peu sa légende?
Non, parce que tout le monde sait comment ça se passe chez Red Bull et que après le passage McLaren, la légende, justement, elle n'a qu'à, enfin, elle ne peut que être ravivée. Elle est, pour moi, elle est toujours mourante, la légende de Fernando Alonso. Il a soufflé sur les braises en 2023, mais tant qu'il gagnera pas, tant qu'il se mettra pas en place sur une lutte pour le titre. Au final, tu demandes à des gamins aujourd'hui qui est Fernando Alonso, bah, c'est le mec qui est très bon chez Aston Martin, mais c'est un pépé qui a prouvé il y a 20 ans.
Un pépé un peu réac.
Mais au final, qui se souvient de cette monoplace terrifiante bleue et jaune qui faisait des miracles il a quand même, au niveau du pilotage, des caractéristiques semblables en termes d'aura à Senna.
Mmh. Ah oui, clairement.
Parce qu'il fait les choses différemment de tout le monde. Mmh. C'est le genre de
Il réinvente son sport.
C'est quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, derrière, ça modifie le sport. Pas tous les jours, hein, évidemment. Mais il y a des trajectoires aujourd'hui qui ont été changées à cause de Fernando Alonso. Mmh. Ou grâce à Fernando Alonso. Donc, aujourd'hui, je vois pas comment il pourrait écorner davantage son image après ce qui s'est passé chez Ferrari, après ce qui s'est passé chez McLaren, après ce qui s'est passé chez Alpine. Par contre, venir justifier tout ce bordel par des stats et un titre, je pense qu'on en ferait du coup un très grand à ce moment-là. Ce qui n'est pas forcément le cas de maintenant.
L'éventuel, encore un énorme si, l'éventuel troisième titre qu'il irait chercher chez une écurie dominante. Si demain, je prends un exemple pour que ce soit plus clair, parce que pas l'impression qu'en 2025 on aura cet écart, mais imaginons demain on te propose le baquet Mercedes 2014, mm-hmm. tu vois, avec une voiture tu sais qui va écraser la concurrence et il n'y aura que ça. Ouais. Si Red Bull lui propose ça, que Alonso y va, chope son troisième titre et prend sa retraite, pour moi ce serait justifié, justifiable, et ça n'écornerait pas son image par rapport aux 15 ans de galère qu'il a connu par rapport aux 15 ans où il a joué des titres, où il a terminé vice-champion, où il a fait des saisons référence 2012 Ferrari, mais pas seulement, même McLaren, hein, pour une première au sein d'une nouvelle structure où il se bat avec Raikkonen et avec Hamilton. Il a parfois loupé des titres pour un rien.
Mais il y en a deux, il y en a deux qui dorment.
Potentiellement aujourd'hui c'est un quadruple
2008,
champion du monde.
2007
au moins quadruple champion du monde. Moi, en 2007, non. Surtout, ouais, je pense surtout à 2010 et 2012 moi perso.
Merci.
Les deux chez Ferrari.
C'est 2007, tranquille.
Donc si demain on t'offre entre guillemets juste en tu t'assis, tu conduis, hop, tu gagnes la course, bravo.
Mais lui va être à 100%, Max il l'est pas, je te rappelle. Hein. Ça va les faire drôle, hein, si jamais.
Parce que Max,
ça
va le piquer un peu.
Ah oui, bah oui, bah oui,
Max, tu ramènes Alonso. Encore une fois, Max, c'est un homme de challenge, c'est pas un homme de stats.
Mais rappelle-toi, Lewis Hamilton, quand il a commencé dans le mal, c'était compliqué de se remettre dans le trafic, des trucs comme ça. Hein. Aujourd'hui, Max Verstappen, il se souvient plus. Mm-hmm. Alors, il va retrouver sa vitesse.
On a envie de voir ça, moi, j'ai envie de voir.
Justement, tiens, c'est une vraie question. Tu dis, j'ai envie de voir ça. Est-ce qu'il n'y a pas l'intérêt de la Formule 1 aussi qui gravite un petit peu derrière ça? Est-ce que la Formule 1 n'a pas intérêt à ce que Fernando Alonso prenne place dans cette Red Bull et s'assoie à côté de Max Verstappen? Parce que on le dit pas beaucoup, on le sait parce qu'on échange avec le diffuseur, parce qu'on a vu les statistiques de Motorsport l'année dernière, mais l'effet hype autour de la Formule 1, il est un petit peu en train de redescendre. Les audiences créateurs de contenu le montrent, les audiences télé le montrent, les audiences, même les différentes stats qu'on peut sortir sur les réseaux sociaux le montrent. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un petit piment à... Est-ce que si Bernie, on en a parlé dans Pole Position samedi, mais si Bernie Ecclestone était le patron de la Formule 1, est-ce qu'il ne pousserait pas justement à ce que Fernando Alonso rejoigne Red Bull?
En tout cas, Dominique Ali, au lieu de nous casser les reins avec ses investissements étatiques et ses rois et ses reines, il ferait mieux
de respecter le roi, El Rey. Pardon.
Il ferait mieux. T'es con. il ferait mieux de se dire quel est l'intérêt de mon sport. Est-ce que c'est d'avoir plus de grands prix qui payent ou est-ce que c'est d'avoir une audience stable et fidèle? Rappelons-vous que personne ne paye ces droits-là s'il n'y a personne qui y regarde. Et les grands prix, c'est pareil si personne ne vient sur site. Donc à la base de tout, c'est le public. Que ce soit sur place ou en téléspectateur, et que si le sport perd de son intérêt, le sport va crever et il ne pourra plus vendre 80 millions à des monarchies pétrolières. Donc à un moment donné, oui, Domenicali, ce serait dans son intérêt d'aller voir Red Bull et de dire hey, mettez-nous de la concurrence parce que concrètement on va tout perdre, et Red Bull en premier. Red Bull qui est là pour
vendre des canettes.
Ouais, mais ils vendent un projet. Ils vendent le fait que avec eux les gens se dépassent, c'est parce vrai. Que du coup le Red Bull te fait te dépasser,
c'est vrai.
Et avoir des problèmes aussi, mais du coup ça n'est d'un avantage de personne que la domination continue comme ça, à part Max Verstappen.
Même chez Red Bull hein, même chez Red Bull, on commence à le dire hein, dans la communication de Red Bull, on commence à le dire, attention on voit pas assez nos voitures par exemple pendant la réalisation.
Et ben c'est, mais quel meilleur coup que de prendre Alonso. Pour moi tout le monde s'y retrouve.
Vous êtes le manager de Fernando Alonso. Mettez-vous dans la peau de Flavio Briatore. Vous êtes avec Fernando là à table et vous parlez de 2025.
C'est quoi Flavio, son manager officiel?
Je crois que c'est lui qui négocie. Oui, t'as raison. C'est un peu obscur. Mais admettons.
Non, mais vraie question, c'est pas.
Je sais pas. Mais je crois que Flavio quand même est la personne qui gère les tractations quand il s'agit de parler de.
Avec Nelsinho Piquet.
Nelson, viens. Qu'est-ce que je vais dire?
Et Kelly.
De facto.
N'oublions pas que Fernando Alonso arrive.
J'ai peur de la dinguerie que tu vas sortir.
Mais non, mais il se retrouve coéquipier avec Max Verstappen, qui est dont le beau-frère est le soumis du Singapour Gate, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Ça rappellera des mauvaises choses en dîner Red Bull.
On a assez dit de mauvaises choses sur Alpine lundi. N'enfonçons pas.
C'est pas Alpine, c'est Renault.
Oui, c'est pareil.
Rien à voir.
Les gars, qu'est-ce que vous lui conseillez à Fernando Alonso? La stabilité pour une fois dans sa carrière?
Non, tu l'écoutes. Si je vous entends. Ça dépend de son envie. Est-ce qu'il se voit faire 3 saisons de 24 Grand Prix ou est-ce qu'il en a marre?
72, j'avoue, purée.
C'est énorme. C'est vrai.
Tu prends les statistiques. C'est aujourd'hui, on le rappelle, celui qui a disputé le plus de GP. Là, est-ce que tu imagines un gap au point de lui rajouter
25% de carrière, 25% de carrière quasiment, 20% de carrière.
Ça veut dire qu'il y a
pas
un
de carrière de Fernando Alonso, de carrière de Monsieur et Madame Tout le Monde en Formule 1. Donc non, moi.
Macron va l'appeler pour la promotion des trimestres.
Sincèrement,
ça sera bien.
Évidemment que tu ne peux qu'être excité par Red Bull. Imagine 2025, Hamilton chez Ferrari qui se bat pour le titre. Alonso chez Red Bull qui se bat pour le titre, Max qui se bat. Ce sera peut-être potentiellement l'une des meilleures saisons que nous on aura vécu en Formule 1. Oui. Maintenant, je me dis qu'aujourd'hui, il a un projet. Après, on serait encore une fois, c'est tellement Alonso de choisir le mauvais projet ou de faire un move assez étonnant, déconcertant.
Enfin, Fernando Alonso signe chez Williams.
Ouais, tu vois, on quitte l'émission.
Tiens.
Mais non, moi honnêtement, j'ai plutôt envie de le voir chez Aston Martin parce que j'ai vraiment l'impression que le projet peut prendre forme en 2026. Après, le problème d'Aston Martin, c'est le pilote numéro 2. Quoi.
Ça sera l'occasion d'un autre débat.
C'est le numéro 1, je crois. Je comprends ton romantisme. Et pour le coup, là.
Imagine-le gagner avec Aston.
Bah oui, c'est plus
sur un dernier projet.
Bah c'est plus beau.
Un dernier projet de 4
ans.
Hein,
c'est plus beau.
Le problème, c'est qu'on l'a imaginé gagner à Monaco et qu'on l'a pas vu gagner.
Mais tic-tac. Et en fait, il y en a eu 27 des L-Plan. Et à un moment donné, où en fait, il faut être pragmatique. Quelle est la voiture qui gagne? La Red Bull, mettez-le dans la Red Bull, on voit ce que ça donne.
Basta.
Il a jamais. Combien de temps ça fait qu'il a pas été dans une voiture qui a gagné un Grand Prix? Qui a gagné un Grand Prix sur la saison 2014? Même pas, il a pas gagné.
Non, il a pas gagné, ouais, 2013.
2013.
Ouais.
Il gagne ça en fait 2013. Donc 11 saisons. Il a connu plus de saisons avec des voitures qui gagnent pas de Grand Prix qu'avec des voitures qui gagnent des Grands Prix. Ça suffit. Mettez-le dans une bagnole qui gagne, point. Parce que au final, la voiture qui gagne, c'est lui qui l'a fait gagner, hein, généralement. C'est, je crois pas qu'il y ait une année où un coéquipier à lui ait gagné et pas lui.
Ça me dit rien.
Donc donnez-lui. Donc en fait, si c'est Verstappen, si c'est Red Bull, il va gagner.
De toute façon, il me semble que statistiquement, il a battu tous ses coéquipiers, sauf égalité avec Hamilton et sauf Button qui le bat, je crois, une année chez McLaren.
Ah, c'est ça.
Oui, parce qu'il y avait démotivation complète. Mais en attendant, enfin, oh, la trajectoire de carrière depuis 2013, elle est cataclysmique. Moi, je m'en fous de le voir rester un an. Je veux le voir un an au top niveau. Je veux le voir au moins une fois, une dernière fois au top niveau.
Tu sais que Brice est comme le bon vin. Il s'améliore avec l'âge. Hein. Regarde,
je le déteste.
Regarde, c'est ça qui est
incroyable. Je déteste l'homme.
Mais tu as preuve que la Formule 1 a besoin de ce mec-là, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas.
Dans des périodes comme ça, l'année dernière, ça a été une bouffée d'oxygène quand même.
Exactement, c'est vrai.
Exactement. Vous nous dites votre avis à vous, chez vous, bien sûr, en commentaire sur cette question. Que doit faire Fernando Alonso? On est assez proche de lui. Sans doute qu'il ira les commentaires. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous et donnez-lui des
Écrivez-le en espagnol.
Voilà, écrivez en espagnol ou en italien. Flavio nous regarde aussi. Qu'est-ce que j'adorais, Flavio. On a fait le point médical catastrophique à la fin du débrief. Flavio Briatore a subi une grosse opération, les gars. Ça a l'air d'aller mieux, paraît-il. Mais voilà, grosse opération aussi pour Flavio Briatore.
Donc il peut être sur le yacht cet été.
Ouais. Et qui nous invite. Comment s'appelle déjà sa boîte? Billionaire Club.
Non, le Billionaire Club, ouais. C'est à Porto. Je sais plus si c'est à Porto de Cervo, ouais, ou à Porto Fino.
Il doit avoir les deux.
Enfin, dans tous les cas, vous allez voir le port. Il y a pas de bateau de moins de 12 mètres.
Non. Cherchez pas des zodiacs, ce ne sont que des annexes.
Mais toujours moins lourd qu'une Alpine.
Gratuit. Voilà, les amis. Merci Hamza, merci Brice, en tout cas d'avoir été avec nous encore une fois pour cette belle émission. 15 jours de coupure pour la Formule 1 qui reviendra du côté de la Chine. Le programme à suivre sur les pistonnés. On va essayer bien sûr de travailler pour vous proposer le fameux vlog sur la première étape de WEC qui se tenait du côté de l'Ozaï au Qatar. Il y a une interview Button là, qui se prépare, qui est en montage. Et puis, le Grand Prix de France historique. Et je pense que tu vas nous ramener de très, très belles choses.
Je vais essayer de ramener des ITV. Ouais. Je garantis rien. Je vais essayer de ramener des ITV.
Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est vraiment un exercice d'humilité qu'il vient de faire, parce qu'on est les plus grands crevards que la Terre ait enfanté, en tout cas dans le milieu F1. Dès qu'on nous invite quelque part, voilà, on rush et c'est parti. Généralement, on rentre jamais les mains vides.
Bah, disons qu'on fait pas les piques assiettes, quoi.
C'est ça.
Quand on arrive, on se met pas au buffet, on attend pas que ça se passe.
C'est vrai qu'on est pas bon sur les petits fours, on est meilleur sur les interviews.
Parce qu'à chaque fois qu'on fait un événement, à la fin, j'ai faim.
Oui, c'est vrai.
Alors qu'il y en a, ils sont.
Je suis un peu ballonné.
Trop mangé.
Pas de nom. Merci Hamza. Merci Brice. Et à très vite. Restez fidèles au pistonné, c'est le plus important. Le petit pouce, comme d'habitude, et l'abonnement. Et parlez-en autour de vous. Salut. We'll be right back.